C'est intéressant de voir que ces habitudes de consommation vont certainement perdurer de façon plus importante. Ce qu'on a vu aussi chez nous, c'est une utilisation accrue en fait aussi du service au volant, du drive.
Nous sortons de cette période de confinement un peu hors norme et la vie prend enfin son cours quasi normal. Aujourd'hui, nous allons parler restauration avec Cédric Jacinti, directeur France et Belgique de la chaîne de restauration Subway. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour Cédric et bienvenue sur les voies de la franchise.
Bonjour, merci.
Alors Cédric, vos premiers pas dans l'enseigne Subway, c'est fait via la franchise. Parce que vous êtes franchisé vous-même, vous avez encore deux restaurants. Pouvez-vous nous parler un peu de cette aventure? Comment on est passé et comment vous êtes passé à ce statut? Vous travailliez chez Sport 2000, je crois, à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, je vais devenir franchisé Subway?
Alors très simplement, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les réseaux indépendants, parce qu'avant d'être chez Sport 2000, qui est une coopérative, j'étais dans une autre coopérative qui est le groupement des Mousquetaires, Intermarché. Et j'étais conseil, on va dire, auprès de nombreux indépendants. Donc je passais mon temps à justement apporter du support, du conseil, de l'accompagnement à des chefs d'entreprise indépendants. Et je ne sais pas, la maturité faisant, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, mais plutôt que de prodiguer tous ces conseils aux autres, est-ce que j'essayerais pas de les appliquer à moi-même et de me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat? Donc j'ai choisi... Alors j'ai réfléchi évidemment à faire peut-être des choses avec le groupement des Mousquetaires ou avec Sport 2000 à un moment donné, et puis j'avais pas envie de gérer de stock en fait, puisque c'était un gros sujet quand j'étais dans ces entreprises-là, et du coup je cherchais un modèle économique relativement simple à gérer. La restauration, quoi qu'on en dise, économiquement est un modèle relativement simple, mais comme je ne connaissais rien dans la restauration, j'ai choisi la franchise parce que je me suis dit, au moins, je n'ai qu'à suivre le manuel des opérations à la lettre, bêtement et simplement, puisque c'est quelque chose qui existe et qui a été rédigé pendant 50 ans, parce que à l'époque, Subway avait une cinquantaine d'années quand j'ai rejoint la franchise, en tout cas dans le monde, et je me suis dit, bon, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à réécrire, je vais suivre ça, et moi je vais m'occuper de ce dont la franchise peut pas faire à ma place, c'est-à-dire mes clients. Et finalement, ça a bien matché. Donc, c'était un bon moyen de rentrer dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas ou peu, tout en, on va dire, me permettant de m'épanouir et de jouer un rôle de chef d'entreprise avec mes équipes et mes clients. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ce bouet à un moment donné? Parce que je suis un peu américanophile, hein, il faut l'être un petit peu aussi pour rentrer dans ce genre de système, et je cherchais en fait une enseigne à l'époque qui avait un gros potentiel de développement, et Subway avait le vent en poupe, c'était en 2011 ou 2012 en fait à l'époque, et je regardais autour de moi et je voyais qu'il n'y en avait pas ou peu, et comme c'est une enseigne qui est valable quand on en a plusieurs, je me suis dit, bon, c'est un peu le Far West autour de chez moi, donc pourquoi pas me lancer et puis prendre les bonnes places tout de suite tant qu'il y en a, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait tout simplement.
D'accord. Et ils sont où vos deux franchises? Alors elles se situent où?
Alors je suis dans l'Essonne.
D'accord.
Pas très loin, en région parisienne. Le premier dans une petite ville qui s'appelle Mency, donc un petit peu au sud de l'agglomération d'Évry et de Corbeil, et le deuxième je l'ai ouvert sur la zone de Courtabœuf, qui est une grosse zone de bureaux à cheval sur les Ulysses, Orsay, Villebon. Donc voilà, c'est une zone complètement différente de la première.
D'accord. Et vous avez encore le temps de gérer un petit peu vos clients, ou vous avez un peu délégué ça à votre associé?
Alors,
et puis
j'ai la chance d'avoir un associé en particulier, et nous étions déjà, de par nos profils en fait, répartis les tâches, parce que je pense que c'est la clé d'une association réussie, c'est de bien séparer en fait les choses entre chacun, pour pas que l'autre vienne marcher sur les plates-bandes du premier et qu'il y ait des frictions. Donc on s'était déjà réparti les tâches. Lui s'occupe donc de tout ce qui est gestion des équipes, gestion de tout ce qui se passe dans le restaurant, donc les approvisionnements, le service client, la gestion des stocks, donc le management des équipes, j'ai dit. Et moi, je m'occupais déjà à l'époque de tout ce qui était back-office, donc toute la partie qui peut se faire en dehors du restaurant, donc la relation avec les banques, avec le bailleur, avec les autorités locales, avec l'expert comptable. Et je peux faire ça grâce aux outils modernes, on va dire, de communication et de partage de données. Je peux faire ça de n'importe où. Donc, je dirais maintenant, mes semaines sont très bien remplies puisque je continue de gérer cette partie-là, voilà, malgré tout. Donc, j'ai toujours un rôle de franchisé, même s'il est effectivement limité à ça. Donc, oui, je fais ça le soir et le week-end quand je suis pas occupé par ce Bouet France.
D'accord. Et donc, justement, voilà, cette nouvelle aventure, ce Bouet France vous dit, bah, on cherche un directeur et c'est à toi qu'on pense. Ça se passe comment, ce passage ?
Alors, c'était un concours de circonstances, j'ai envie de dire. On dit souvent qu'il faut être au bon endroit au bon moment, donc je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous l'avez dit, j'étais directeur de réseau indépendant par le passé, donc j'ai géré déjà plusieurs centaines, en fait, d'établissements avec tous sous-entrepreneurs indépendants, qui sont des adhérents, pour le coup, de la coopérative. Comme j'étais sur ces fonctions back-office, j'ai envie de dire, je suis entre guillemets un peu moins occupé et moins pris que mon associé, puisque lui, il est tous les jours évidemment dans le restaurant, midi et soir, donc j'avais du temps, en fait, de libre. Et effectivement, quand l'équipe Europe, d'une façon générale, s'est restructurée, et qu'il a fallu chercher, en fait, un candidat, ils ont pensé à prendre, en fait, quelqu'un qui était franchisé, ce qui était une première. Auparavant, les directeurs de l'enseigne étaient que des gens qui venaient de l'extérieur, et ils ont pensé à prendre quelqu'un de l'interne, et connaissant mon profil, puisque comme je suis en région parisienne, j'étais assez proche, finalement, du siège, d'une façon régulière. J'étais d'ailleurs élu au board marketing, donc le comité marketing de ma région, qui se tenait en général au siège, donc les gens me connaissaient. Et puis voilà, donc franchisé, on va dire, pas exemplaire, mais en tout cas qui faisait bien le boulot, une expérience déjà dans les réseaux indépendants et de gestion de réseau, du temps, de disponible, bien évidemment, tout en restant franchisé. C'était important pour moi de rester franchisé. Et puis bon, bah, le fait que je parle aussi anglais, tout ça a concouru à ce que j'ai une série d'entretiens après, comme un job normal. Donc j'ai été interviewé par le directeur Europe, le directeur de l'international, puis le directeur du développement monde aux États-Unis, et puis ça s'est super bien passé. En fait, j'ai été très très bien accueilli.
Bah super, bravo. Alors aujourd'hui en France, Subway c'est 400 restaurants, peu plus de 400, pour 300 franchisés.
Oui, c'est ça, 300 franchisés au groupe de franchisés. C'est-à-dire que moi je me considère comme, avec mon associé, on se considère comme un seul franchisé, mais en fait c'est 300 associations, 300 oui. familles, 300 frères et sœurs, cousins, voilà, amis d'enfance, voilà, ça peut être aussi même plus que deux, hein, d'ailleurs, ça peut être trois parfois qui ont plusieurs restaurants, mais c'est un groupe effectivement de 300, c'est 300 groupes d'entrepreneurs indépendants ou en association.
D'accord, parce que vous disiez qu'effectivement c'était plus intéressant d'en avoir plusieurs.
Ouais, ce Bouet en fait est vraiment un modèle économique qui est intéressant et qui, sur lequel on prend du plaisir quand on a plusieurs exploitations. Avoir un seul restaurant, il faut bien démarrer, hein, donc avoir un restaurant c'est très bien, ça permet déjà d'apprendre le métier quand on n'est pas effectivement de la partie au départ. Mais c'est vrai que on a en fait, alors je vais rentrer dans les notions un peu techniques, mais on a un niveau de charge fixe qui est relativement élevé. Donc quand on atteint en fait ce seuil, après ça devient relativement exponentiel. Donc quand on dépasse en fait, on atteint en fait le point mort assez rapidement, on peut gagner rapidement beaucoup de cash en fait pour le réinvestir, et on peut très vite trouver des économies d'échelle en fait à réaliser, et des cohérences en fait entre les restaurants de façon régionale en ouvrant plusieurs. Donc c'est pour ça.
Il faut qu'il soit un peu situé un peu proche, quoi.
De toute façon, en fait, on essaye de respecter des espèces de zones territoriales avec les franchisés qui en ont plusieurs, qu'on appelle donc nos multi-franchisés, comme tout le monde. Mm-hmm. Et on essaye effectivement d'avoir cette politique, on va dire, de personnes qui maîtrisent bien, en fait, leur environnement, leur territoire, et qui est capable de dire, voilà, j'ai deux restaurants, et si je devais en mettre un troisième, ça serait à cet endroit-là, parce qu'il y a une vraie complémentarité, les zones se touchent, et la communication a du sens, en fait, en mettant ces trois restaurants ensemble, en fait, sur une même campagne. c'est pratique aussi quand on veut faire évoluer les équipes.
Oui, c'est ça. Voilà, le management de l'équipe est plus simple. On répartit les équipes entre les trois, quoi.
Oui, exactement. Et puis, en plus, si les gens veulent changer d'établissement, il y a un peu d'administratif à faire, mais c'est tout à fait envisageable. Et puis, on peut faire évoluer les gens. C'est-à-dire que si on voit que dans un restaurant, on a un ou deux talents qui poussent derrière le responsable, on peut très bien leur proposer, puisque c'est pas très loin, un poste de manager, voire après de superviseur de plusieurs restaurants sur l'ensemble des restos. Donc ça devient vraiment fun, j'ai envie de dire, quand on en a plusieurs, parce que pour le coup, on a des établissements qui tournent relativement seuls. Le plus compliqué, finalement, c'est la gestion du personnel, j'ai envie de dire, comme je pense tous mes collègues restaurateurs. Le modèle économique, je disais, il est relativement simple. Notre façon de travailler chez Subway, elle est simple aussi parce que tout est centralisé, c'est-à-dire on a un cadencier chez un fournisseur qui centralise tous les produits, donc on commande une fois, on est livré une fois, on est facturé une fois, donc c'est ultra pratique. Oui. Du coup, après, ça donne du temps, en fait, et ça permet d'avoir des économies d'échelle qui se font relativement facilement. Il y en a même qui embauchent après des comptables, qui font carrément des structures en elles-mêmes pour piloter en fait l'ensemble de leurs points de vente.
Ouais. D'accord, très bien. Et quelles sont les spécificités de Subway ? Alors, on connaît Subway, c'est la fraîcheur des produits, on fait son sandwich devant nous. Est-ce qu'il y a des éléments vraiment qui sont très spécifiques à Subway ?
Alors, la vraie singularité, vous l'avez dit, c'est la personnalisation. Je pense qu'à l'échelle nationale, en fait, on est la seule enseigne à le faire en France. On est un mix entre des sandwicheries, des salades bars, des enseignes de restauration rapide, on va dire nord-américaine traditionnelle. Donc on vient se nicher en fait dans un créneau qui n'était pas occupé jusque-là. L'enseigne va avoir 20 ans l'année prochaine, donc c'est quelque chose en fait aujourd'hui qu'on a préempté, et je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN et les clients le savent. Et ce qui est vraiment formidable autour de ça, c'est que la personnalisation pouvait être perçu comme un effet de mode à un moment donné. Aujourd'hui, c'est un vrai mode de vie.
Oui.
On personnalise tout. Vous personnalisez votre voiture quand vous l'achetez. Vous pouvez personnaliser vos chaussures. Vous pouvez personnaliser vos meubles. Donc, je pense que la personnalisation, la déglobalisation des choses et la personnalisation est devenue un vrai mode de vie. Et ça a très bien pris en France. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait le succès de l'enseigne Subway aujourd'hui. Après, on a effectivement une offre qui est adaptée aux attentes de nos clients. C'est-à-dire que le concept est le même en France que dans tous les pays, mais vous n'avez pas trouvé les mêmes produits en France que vous avez trouvé, je sais pas, en Allemagne par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc on a adapté en fait notre offre pour que les gens puissent bénéficier d'un concept où ils puissent faire eux-mêmes de A à Z en fait leur salade, leur sandwich ou leur wrap, parce qu'on fait aussi des wraps, tout en mettant en fait à disposition des produits qu'ils ont envie de trouver chez nous. Donc je pense que la vraie singularité en fait elle est là, et j'avais envie d'ajouter qu'on n'est pas vraiment une société de restauration classique, on est plus des prestataires de services. J'aime bien dire qu'on ne vend pas des choses, j'ai envie de dire en fait on vend du service, puisque nous sommes des assembleurs d'ingrédients, des créateurs en fait, avec la complicité évidemment de notre client, mais on est vraiment des créateurs en fait, et il n'y a pas deux sandwichs finalement qui vont se ressembler.
Oui.
Et du coup c'est on est vraiment dans l'ultra personnalisation là.
D'accord. Quand on préparait cette interview, vous m'avez dit que l'orientation un peu du développement de Subway était d'aller vers des restaurants plus grands, avec peut-être plus de places assises.
Là aussi, c'est l'adaptation du concept en fait au marché français. J'ai lu une infographie il n'y a pas très longtemps qui va permettre d'illustrer ça. L'Américain en fait passe assis à table à manger ou à consommer de la nourriture ou de la boisson un peu moins d'une heure par jour. Le Français passe presque 2h20. Que ce soit à l'extérieur ou que ce soit chez soi. Donc les instants de consommation, de restauration en fait sont des choses, sont des rituels importants en fait en France. Et quand on s'est dit ça, si on veut l'illustrer et le comprendre très facilement, on imagine que la pause du déjeuner en fait d'une heure, elle est sacrée. Tout le monde prend son heure en général pour déjeuner. On aime bien sortir à l'extérieur avec ses collègues et amis pour pouvoir justement décompresser un petit peu, essayer de parler de ce qu'on a fait le week-end, de comment vont les enfants, où est-ce qu'on va en vacances, quel est le dernier film qu'on a vu, etc. Donc je crois que si on a des petits restaurants comme le modèle américain avait été importé en France à une époque, ça ne fonctionne pas. Et on devient quasiment qu'une enseigne de fait de vente à emporter, même si la vente à emporter est quelque chose de très important en France et notamment dans les milieux urbains. Je crois que quand on sort un petit peu de ces milieux-là et qu'on a la place et surtout le loyer qui va avec pour faire plus, oui, plus grand, je constate que les restaurants plus grands font plus de chiffre d'affaires, sont plus rentables, et il y a une connivence, on va dire, une convivialité qui est un petit peu plus développée, avec des habitués qui, bah, du coup, en font des lieux de vie. Voilà, ce qui n'était pas le cas quand on avait des restaurants plus petits.
D'accord. Et on peut s'interroger peut-être sur cette évolution avec la crise sanitaire qu'on traverse. Mmh. Est-ce que la vente à emporter devient maintenant la norme, je dirais, puisqu'elle est la seule à exister, en tout cas en région parisienne. Elle est imposée. Est-ce que vous pensez que ça remet en cause un petit peu ce modèle ou non, ou ça reviendra, c'est juste un moment difficile à passer, mais et on reviendra au moment de consommation, ou est-ce qu'on va prendre trop l'habitude d'avoir été livré, d'avoir consommé à emporter, d'avoir fait du click and collect et...
Alors, vous l'avez dit, c'est un exercice imposé aujourd'hui, donc on n'a pas trop le choix. Quand je vois l'appétence en fait qu'ont nos clients après le confinement par rapport à avant, je suis pas très inquiet. J'ai envie de dire par rapport au modèle, j'aurais pu dire, c'est un peu tôt pour le dire, mais en fait non, parce que il me semble que les gens en fait ont envie de retrouver en fait très rapidement leur vie d'avant, comme on dit souvent, comme ça a été repris souvent dans les médias ou par nos les personnes qui nous gouvernent. Donc je suis pas inquiet, je crois que le modèle en fait reste le modèle important. Il y a qu'à voir les terrasses prises d'assaut bondées qu'on a en Île-de-France, puisque malheureusement en Île-de-France, que j'en fais partie, on est les seuls à pas pouvoir recevoir du monde en salle. Je crois que le côté lieu de vie et de se poser en fait en restaurant et de passer du temps avec ses amis, c'est quelque chose qui est ancré de toute façon dans nos gènes. On a, je pense, une attitude de consommation latine, donc on a envie effectivement de passer du temps avec ses amis, se poser. Donc pour moi, le concept n'est pas du tout remis en question, il va continuer de se développer. Après, ce qui est intéressant dans votre question, c'est quid en fait des nouveaux canaux de vente qui là pour le coup ont pris un gros coup de publicité, j'ai envie de dire,
oui.
Puisque la vente à emporter, bon, c'est quelque chose qui existait déjà, mais si on parle des choses un peu nouvelles, en tout cas les plus récentes, comme la livraison, le click and collect, nous on a vu que la livraison, elle a fait plus 2,5 par rapport à ce qu'on faisait juste après le déconfinement. Là aujourd'hui on est en train de redescendre toutes les semaines, enfin on suit ça par semaine,
oui.
On voit que la livraison est en train de reprendre en fait la place qui était à peu près la sienne en fait avant, et notamment avec les différentes phases de déconfinement, donc avec le retour de la vente emportée, le retour du service en salle en fait avec en dehors de, enfin, en tout cas de l'Île-de-France, et c'est intéressant de voir que ces habitudes de consommation vont certainement perdurer de façon plus importante. Ce qu'on a vu aussi chez nous, c'est une utilisation accrue en fait aussi du service au volant, du drive.
D'accord.
Donc on en a une dizaine aujourd'hui en France. Enfin, le prochain ouvre d'ailleurs la semaine prochaine dans la banlieue de Lille. J'irai à l'inauguration jeudi prochain. Donc c'est quelque chose qui est une vraie tendance de fond et j'ai envie de dire ça a été multiplié par 2 ou 4 en fait au niveau de la fréquentation.
D'accord.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va durer dans le temps ? Je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir une redistribution un petit peu des canaux de vente qui vont être utilisés, mais je pense aussi que ça nous a amené des nouveaux clients. Je pense à ça. Le drive et la livraison.
D'accord.
Je pense à ça parce que la livraison, clairement, quand on l'a implémenté, alors on l'avait implémenté déjà 2 ans avant le confinement, donc ça faisait un moment déjà qu'on était en place, et ça a été vraiment incrémental. C'est-à-dire que les gens ont continué de venir en restaurant, mais on a touché une nouvelle clientèle en fait qui commandait par Internet. Et il me semble qu'on va avoir, on a gagné des nouveaux clients. Quand on va pouvoir réouvrir globalement tous nos établissements en fait à l'accueil des gens en salle et que le déconfinement va se détendre, on va dire peu à peu.
Oui.
Il me semble que, au vu des chiffres qu'on fait déjà aujourd'hui, hein, il me semble qu'on va, à mon avis, observer une vraie progression par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va garder des aficionados de la livraison, des aficionados de la drive, et puis des gens qui continueront de venir en restaurant et de consommer en fait sur place parce qu'en fait ils ont besoin de sortir aussi de chez eux et puis de prendre l'air et puis de se poser et voir d'autres gens. Voilà, c'est le principe en fait du Français qui se sent en terrasse et qui regarde passer tout ce qui se passe, oui, devant ses yeux. Donc voilà. Donc je crois qu'en salle, en fait, voilà, on aime bien bien être entouré de gens et puis de voir du monde. Donc, ouais,
peut-être. Et la mise en place de la distanciation dans les salles, ça s'est bien passé. Du coup, est-ce que l'ambiance est un petit peu plus froide, un peu différente, ou est-ce que les gens, finalement, bon, se sont sentis assez rapidement à l'aise? Et ouais, on a ce côté un peu anxiogène encore un petit peu qui traîne avec cette exigence de masse, cette distanciation, cette absence de contact. Est-ce que ça se ressent un petit peu dans les restaurants qui ont rouvert leurs salles ?
Alors, sur le papier, oui, c'est assez étrange, en fait, de dire vous ne connaissez pas votre voisin d'à côté, réclamez-nous, en fait, un paravent en plexiglas, en fait, pour pouvoir vous isoler. Mais je trouve qu'on est dans un... Enfin, le déconfinement est assez paradoxal, finalement, parce que quand vous avez les manuels opérationnels, on va dire, pour les bureaux, par exemple, vous ne devez pas avoir quelqu'un à côté de vous, vous ne devez pas avoir quelqu'un en face de vous, vous avez 4 mètres carrés. Mais si vous prenez, là, je vois, à midi, on a mangé à 4, en fait, et on était séparés sur des tables en quinconce. Si ces 4 personnes-là avaient décidé d'aller manger en terrasse dans le bistrot d'en bas, on aurait été tous les 4 serrés sur une petite table. Alors, on aurait eu 1 mètre de distance, en fait, avec d'autres voisins qu'on ne connaissait pas. Mais néanmoins, en fait, on n'aurait pas respecté ce qu'on respecte, en fait, toute la journée au bureau, au restaurant. Donc, le paradoxe, c'est que on autorise des choses, en fait, à certains endroits, ou en tout cas, on légifère, puisque quelque part, c'est rentré effectivement dans la loi, donc sur des façons, on va dire, de se réunir, en fait, à un endroit qui sont différentes, en fait, d'un autre endroit. Donc nous, on a la chance, dans la restauration, de pouvoir accueillir jusqu'à 10 convives en même temps, tant que chaque table, en fait, est éloignée d'un mètre. Donc ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir effectivement qu'une personne à la fois, comme les pauvres enfants à la cantine qu'on voit tout seuls sur leur table, à 1 mètre de distance, en fait, de leurs camarades. Je trouve que finalement, l'assouplissement des distances de sécurité, en fait, qu'on a dans la restauration, il a été plutôt en notre faveur par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc finalement... Bon, comme on le sait, le français est pas très discipliné. On le voit dans les queues, en fait, des restaurants, des supermarchés, choses comme ça. Tout le monde porte pas de masque, tout le monde respecte pas la distance de sécurité. Enfin, même si on connaît pas la personne qui est devant ou qui est derrière. Finalement, j'ai le sentiment que les gens ont tellement envie de retrouver leurs habitudes que le retour en restaurant, il est presque indolore. Enfin,
d'accord.
Tant qu'on peut se réunir avec ses amis et puis que finalement on peut faire comme avant. Finalement, on peut faire comme avant. Enfin,
voilà, c'est ça.
La seule chose, c'est que au lieu d'avoir quelqu'un tout
de suite. On a plus de place, finalement, on est plus à l'aise.
On a plus de place pour poser ses affaires.
Voilà. C'est ça. Donc c'est plutôt bien pour le client. Et justement, on avait communiqué, nous, avec une offre Passe Confiance sur cette peur de 50% des gens qui disaient moi, je suis pas tout à fait prêt à retourner dans le restaurant pour l'instant. C'est pas tout à fait ce que vous observez dans vos chiffres, en tout cas.
Non, alors heureusement qu'on n'est pas à moins 50, sinon ça aurait été très compliqué. Après, je vois autour de moi des gens qui sont, sans être terrifiés, mais qui sont évidemment très rigoureux, en fait, dans le respect des règles. Quelle que soit la génération, il n'y a pas non plus de phénomène, on va dire, de génération par rapport à cette peur. Et puis on a des gens qui sont flexibles, qui se disent « je m'adapte finalement à la personne que j'ai à côté de moi ou que j'ai en face de moi ». Donc on a... je sais pas. Alors après, est-ce qu'on n'a pas ces gens-là ? Est-ce que c'est ces personnes, en fait, qui avaient décidé, qui ont vraiment peur, en fait, n'ont pas encore décidé de retourner fréquenter les bars, les restaurants, et du coup, on les aura un petit peu plus tard, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ? Est-ce que les gens qui sont revenus surconsomment, du coup, du fait des privations qu'ils ont eues pendant 2 mois ? Je crois qu'il faut attendre un petit peu pour répondre à ces questions, et je pense que la rentrée de septembre, en fait, sera décisive, parce qu'on va certainement avoir un assouplissement des règles de télétravail, donc je pense qu'il y a plus de gens qui vont revenir au bureau. Il y a tous les étudiants qui vont reprendre aussi les chemins des écoles, des universités et des collèges. Donc je pense qu'en septembre, on aura peut-être une meilleure vision des choses, mais j'ai pas observé, on va dire, de défiance vis-à-vis du commerce en général et vis-à-vis des restaurants et encore moins vis-à-vis de Subway par rapport, en fait, à ce qui pouvait ressortir à un moment donné dans les sondages.
Ouais. D'accord. On va revenir un petit peu sur cette période de confinement, sur ce premier jour où on dit « Ok, ce soir à minuit, on ferme les restaurants ». Vous avez été, vous, un des premiers à dire « On va fermer 100% des restaurants », même si ce sont 100% de franchisés.
Oui.
Quel a été un peu l'enseignement de cette période, sans revenir dans les détails de tout, mais c'est vrai que c'est plus sous forme d'enseignement. Comment ça s'est vécu chez Subway? Comment vous l'avez vécu personnellement peut-être? Et puis après, comment ça s'est vécu chez Subway et comment on en sort plus fort? Mm-hmm. Peut-être avec des questions aussi sur la manière de manager le réseau de façon différente. Mm-hmm. Voilà. Est-ce quelle est votre expérience par rapport à cette période vraiment hors norme?
Alors, il y a eu trois annonces, en fait, avant le confinement. Il y a eu l'annonce du 12, qui annonçait en fait la fermeture des écoles pour le lundi suivant. Donc ça, c'était le jeudi soir. Il y a eu l'annonce du samedi soir, effectivement, à 20h, qui dit qu'à minuit, tout devait fermer. Donc là, j'avoue que j'en veux un petit peu, en fait, à nos dirigeants, parce que c'est extrêmement court. Et puis, bon, on vend quand même des denrées périssables. Donc je trouve que le cadeau était... Enfin, en tout cas, si les choses étaient sues auparavant, je pense qu'on aurait pu ou dû laisser un petit peu plus de temps aux gens de au moins de liquider les stocks. Bon, nous, on a eu la chance, finalement, quand cette décision a été prise, de rester ouvert, pour le coup, en drive, en livraison et en vente emportée, donc le dimanche et le lundi. Et le lundi soir, effectivement, il y a eu l'annonce du confinement pour le lendemain midi, donc le 16 mars pour le 17 mars à midi. Donc on a eu trois phases. Je crois que l'important, en fait, dans ce qui a été fait, c'était de tout de suite prendre l'information, de la digérer à notre niveau, d'en prendre prendre les conséquences en fait qui en découlaient, les décisions en fait qui s'imposaient, et les communiquer tout de suite au réseau. Donc on a eu quelques nuits blanches, j'avoue, genre celle du samedi soir notamment, où il y a eu cette annonce pour savoir est-ce qu'on continuait, est-ce qu'on continuait pas en fait avec la livraison, la vente à emporter, le drive. On a pris le parti pour éviter un maximum de gaspillage en fait, de rester ouvert à ce moment-là, ce qui fait qu'on a eu très 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 peu de pertes en fait, et puis le reste en fait on l'a distribué, donc on a vraiment pas perdu, on va dire, de nourriture. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'était ma première préoccupation en fait le samedi soir. Ensuite, au moment du lundi soir, de l'annonce du confinement, là je pense que le confinement, ça annonce quelque chose de grave en fait. Donc on n'est plus dans des notions élémentaires de commerce, on est là dans un moment en fait où on nous explique que si on sort de chez nous, on peut mourir. Donc on prend le moment avec beaucoup de gravité, on mesure, on écoute, on voit ce qui se passe à la télé, à la radio, dans la presse, on lit effectivement que la liste en fait des décès, des hospitalisations, le stress, la tension en fait aussi du personnel soignant qui s'accentue, on va dire, chaque heure, chaque jour, fait que le lundi soir, on a pas mal discuté avec mon équipe et je pense une heure après l'annonce, on dit bon, on va recommander au réseau de tout arrêter. Pour la simple raison que dans les discours qu'il y a eu, il y a eu plusieurs messages en fait importants. Le premier, c'est laissons les commerces essentiels ouverts. Et je ne pense pas que nous soyons un commerce essentiel à la survie de la population. Je pense qu'on est une destination plaisir, comme la plupart des restaurants. Et nous ne devions pas donner en fait d'occasion supplémentaire aux gens de sortir de chez eux, puisqu'on était en train de nous dire que si on sortait de chez nous, on pouvait mourir. Donc c'était important, je pense, de prendre cette décision-là. En même temps, on entend que la tension des éléments de protection individuelle est très importante dans le personnel soignant, et donc nous ne pouvions plus rester ouverts sans protéger non plus, comme on est en danger de mort, clairement. Il fallait protéger, en fait, nos équipes, dans un premier temps, les équipes en restaurant, et puis les clients qu'on servait en face, si jamais ils continuaient de venir en restaurant. Et je pense que ça aurait été un gros problème, puisqu'on n'aurait pas pu protéger tout le monde, puisque les éléments de protection individuelle n'étaient pas disponibles à ce moment-là en quantité importante. Les éléments de protection type plexi, en fait, n'existaient pas encore. Ça a été tout ça, c'est une économie qui s'est créée en quelques
jours. Tout à fait, oui. Oui.
Donc on a communiqué au réseau en disant, écoutez, fort de toutes ces informations-là, nous prenons la décision nous vous recommandons, c'est une décision, mais en tout cas c'est une recommandation, puisque tout le monde est indépendant dans le réseau, enfin ce sont que des franchisés, on a 100% de franchise. Nous vous recommandons en fait de d'arrêter toute activité en fait dès ce soir ou demain midi en fait, quand le confinement sera acté. Et je pense que le dernier élément du discours qui a fini par me convaincre, c'est la volonté en fait forte du gouvernement d'aider en fait les entreprises et de protéger l'économie. Et je crois que quand on prend cette décision-là, on doit garder en tête que, effectivement, il y a des vies à protéger, mais il y a des personnes morales aussi qui sont dans l'entreprise, qu'il faut aussi protéger dans l'histoire. Et est-ce qu'en fermant, sans ces mesures-là, on aurait survécu de la même façon, je ne pense pas. Donc j'étais quelque part rassuré sur le fait que dans l'annonce qui a été faite, la plupart des éléments ont été pris en considération. C'est-à-dire on protège les gens, on protège les entreprises, on protège les emplois, les trésoreries des entreprises, parce qu'il y a pas mal d'annonces qui ont été faites ce soir-là. Et ça m'a convaincu. Voilà, donc c'est quand même une décision qui est très difficile. Moi, oui. Personnellement, je l'ai pas très bien vécu, en fait, ce soir-là, parce que je lis, je regarde mes chiffres tous les jours, je suis fan de la performance, de la mesure, donc j'adore regarder les études, etc., pour voir si l'enseigne progresse. Et en plus, on était sur une phase extrêmement haussière. Hein. On venait de faire un plus 9 en comparable en 2019. Au 15 mars, on était à plus 11 en cumul depuis le début de l'année 2020 sur un plus 9 de l'année dernière. Oui. Donc on était sur une super tendance. Tout le monde était euphorique. Les franchisés étaient en train de gagner de l'argent, de faire de la trésorerie, de tabler sur des projets, de remodeling de leur restaurant, d'ouverture d'un nouveau restaurant. Et en fait, on met tout ça en stand-by. Donc ça a été très dur, et puis j'ai été bien entouré, et je pense qu'on a pris la bonne décision, de toute façon, à ce moment-là. J'ai pas regardé, sincèrement, vous dites qu'on est parmi les premiers, à ce moment-là, je regarde pas qui fait quoi. Je pense d'abord, en fait, à notre enseigne, à nos clients, à nos équipes, et je pense que chacun a pris sa décision en son âme et conscience, et je pense que chacun a pris la bonne décision à un moment donné, oui.
Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous en ressortez, vous, ensemble, groupe Subway en France, de cette période où chacun était chez soi, voyait son restaurant fermé, ne pouvait pas y aller pour certains, parce qu'ils étaient peut-être pas accessibles.
Ils y allaient quand même, parce qu'il faut quand même vérifier les équipements, parce qu'on a quand même des chambres froides, ce sont des éléments qu'il faut contrôler régulièrement, donc on pouvait pas se permettre, on avait quand même de la marchandise en fait, qui restait avec des DLC qui nous ont permis de réouvrir en fait, assez rapidement, donc il fallait vérifier que tout fonctionnait, et puis comme on a beaucoup d'équipements un peu pointus, il faut s'assurer que ça tourne, que c'est entretenu, etc. Donc on avait quand même des gens qui se déplaçaient pour vérifier ça. L'enseignement, en fait, c'est ça met en lumière encore plus qu'auparavant qu'on est un groupement d'hommes avec un grand H, qu'on a une forme de famille en fin de compte autour de l'enseigne avec des gens qui s'occupent d'autres gens. On n'est plus dans le business puisque le business est arrêté, donc on est plus en fait dans la relation avec les personnes.
Ça s'est concrétisé comment, cette relation entre personnes pendant cette période?
Alors ça a été à différents niveaux. Alors on a des équipes en région, certaines, c'est assez marrant, ont mis en place des espèces de grilles de suivi psychologique en fait pour savoir s'ils étaient en appartement, s'ils avaient des enfants, s'ils avaient des espaces verts autour d'eux, comment se vivait en fait le confinement. Donc là on s'est intéressé, mais une fois qu'on a fermé on va dire le business, c'est parce que il y a évidemment plein d'étapes hein, oui, par rapport à tout ça, mais une fois que le business était fermé, sécurisé, qu'on était sûr qu'il n'y avait aucune ressource, mais aucune dépense en face, en parallèle de ça, il fallait s'assurer de l'état psychologique en fait, de notre réseau, puisque c'est le projet d'une vie, d'une famille. La plupart de nos franchisés sont qu'avec l'enseigne Subway, et donc que leur restaurant, ou un ou plusieurs restaurants, oui, mais en tout cas, c'est leur business, donc ils n'ont plus de ressources, hein, ce sont des indépendants, je pense que c'est comme les intermittents, toutes ces personnes-là qui, quand l'activité s'arrête, il n'y a plus rien qui rentre. Hein,
tout à fait, oui.
Donc il n'y a pas de chômage partiel pour eux, donc il fallait s'assurer que tout aille bien pour eux, comment ils le vivaient, donc nos équipes en région ont fait des espèces de call en fait et de visioconférence avec leurs franchisés en fait très régulièrement.
Ils avaient été briefés pour ça ou non? C'est spontanément. Alors, comme ça ils se sont dit, ou vous avez vous-même au bureau, enfin au siège, donné aussi des consignes dans ce sens-là?
On a donné des consignes pour que ça soit fait de façon homogène. Bien évidemment, certains avaient déjà fait le boulot en fait en prenant des nouvelles de leurs franchisés et en appelant en fait les familles, les individus, etc. On a des régions, des petites régions, on a des responsables régionaux qui ont 15-20 franchisés, donc c'est pas beaucoup, donc ça va très vite en fait de prendre des nouvelles.
Oui.
On a des régions qui sont beaucoup plus grandes avec beaucoup plus de franchisés, donc nous avons en fait impulsé la chose pour que ça soit fait partout, qu'il n'y ait personne qui soit laissé pour compte, que personne qui ne soit pas appelé, qui ne soit pas vu. C'était important. Hein, l'activation de la caméra, quand on est sur un outil comme Teams, en fait, est extrêmement important.
Oui.
Donc nous, on l'a fait entre nous, on l'a fait avec nos équipes en région, et on l'a fait avec quelques franchisés en fait, dont on était proche. Et on a simplement dit à tous nos responsables régionaux, faites-le. Faites ça de cette façon-là, posez ces questions-là, renseignez-vous, voyez comment, dans quel esprit on est, etc. Enfin, en tout cas, il se peut qu'il y ait des gens, on ne savait pas comment on allait vivre le confinement.
Oui, tout à fait, c'était oui.
Au début, on s'est dit, on va partir dans une déprime pas possible, il y a des gens qui sont en appart, dans 20 mètres carrés, enfin, comment ça va se passer, voilà. Est-ce que les franchisés font aussi le job avec leurs équipes? Est-ce qu'ils communiquent aussi avec les équipes en et restaurant, oui, pour savoir comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont rassurés qu'on ait fermé l'activité? Est-ce qu'ils ont peur qu'elles ne reprennent pas ou qu'ils ne retrouvent pas leur job? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de communication. Donc je pense que l'humain qui était déjà très présent chez nous, alors après je tiens ça peut-être de mon passé coopératif,
oui,
mais en tout cas l'humain qui était déjà très présent chez nous a pris une place encore plus importante. Personnellement, j'ai écrit à une centaine de franchisés avec qui je suis en contact de temps en temps, ou sur des sujets XY, des commissions, ou que j'ai visité il n'y a pas longtemps, parce que je visite beaucoup de restaurants sur le terrain, et j'ai renvoyé un petit mot, et je leur ai juste dit, dites-moi comment vous allez, savoir où vous en êtes du chômage partiel, machin. Il y a d'autres personnes dans l'équipe qui s'en occupent. Vous, comment ça va? Comment vous vivez? Dans quel cadre vous êtes? Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous êtes tout seul?
Parce que peut-être que certains,
en fait, sont seuls aussi.
Oui, il y en a qui ont confiné tout seul, oui,
exactement,
effectivement. Oui.
Donc, je crois que ça a été largement apprécié. Et je pense que la plus belle réponse que j'ai eue d'une franchisée dans le Sud-Ouest, elle m'a dit... ton message, en fait, est comme une carte postale parmi le courrier qu'on a avec toutes les factures, en fin de compte. Et ça fait tellement du bien de parler d'autre chose que de chômage partiel, de report d'échéance, de loyer, de choses comme ça, et juste de parler de choses normales.
Voilà, de la vie.
Ouais, de la vie, entre personnes, voilà, entre êtres humains. Ça fait du bien. Et je crois que ce qui a vraiment renforcé le lien, en fait, entre tout le monde, je crois que c'est vraiment toutes ces actions qu'on a eues pour s'intéresser en fait, aux individus.
Oui.
Voilà, après s'être intéressé ou en même temps que de s'intéresser à leurs entreprises. Voilà, puisqu'on a aussi cette responsabilité-là.
Prendre soin.
Oui, prendre soin de l'autre. Je crois que c'est important. Et je crois que, d'une façon générale, paradoxalement, le confinement a apporté ça. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a jamais pris autant de nouvelles des uns et des autres que pendant ce confinement, alors que parfois on peut rester peut-être 2-3 mois sans appeler, je sais pas, sa famille, ses copains, etc. Et je crois que là, mécaniquement, tout le monde a eu le réflexe, en fait, d'appeler, en fait, son entourage.
C'est vrai.
Ses proches ou les gens qu'on aime. Et du coup, voilà, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on était tout seul, mais en même temps, on était souvent tous ensemble. Moi, j'ai jamais fait autant d'apéros, on va dire, FaceTime, en fait, que pendant ce confinement, avec des copains qui habitent à Bordeaux, à Chartres, à Toulouse, etc., et qu'on voit peut-être une ou deux fois par an, quoi. Et là, pendant le confinement, qui a duré finalement que 7 semaines, on s'est parlé peut-être 3 fois.
On a eu besoin de se voir, oui.
On s'est vu 3 fois.
Oui, oui.
On s'est vu.
Et on s'est vu, oui. On a eu besoin, oui. Tout à fait. Et donc, ensuite, maintenant, ça a repris. Et quelles habitudes vous gardez, alors? Est-ce que vous avez gardé ce café à distance que vous preniez tous les jours à 14h? Est-ce que vous... qu'est-ce que vous avez envie de conserver? Est-ce que vous choisissez de conserver?
Oui, alors le petit café à distance, je l'ai fait avec mon équipe à Paris, pour le coup, parce que nous étions aussi en télétravail. Alors, on a mis personne au chômage partiel, puisque tout le monde était sur le pont, parce qu'on... on est une vingtaine de personnes au siège à Paris et il y a à peu près 60 personnes en région. Donc certains animateurs de réseau ont été mis au chômage partiel parce que pour le coup ils ne pouvaient pas se déplacer dans les restaurants, en plus avec l'interdiction de circuler. Mais effectivement, on a créé ce petit rituel avec l'équipe parisienne de faire des réunions informelles. Vous savez, comme quand, je sais pas, après déjeuner, on vient avec son café discuter au bureau du collègue en disant « Tiens, comment ça va? Est-ce que t'as vu, je sais pas, la fin de telle série, etc. » Donc le truc, en fait, qu'on fait, on va dire, logiquement, tous les jours...
De façon naturelle,
naturelle. En France, en tout cas, peut-être pas dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est très français, je pense. Donc on a mis en plus ce petit rituel... on a rouvert le bureau la semaine dernière après la Pentecôte, donc le 2, et du coup lundi on a gardé un call, on va dire pro, tous les lundis, et lundi j'ai demandé, donc hier, est-ce que vous voulez qu'on garde ce rituel là donc certaines personnes ont souhaité effectivement le garder parce que on est en rotation en fin de compte, donc on ne se voit pas tous en même temps, donc on va garder ces petits rituels, et après je crois que ce qu'on a gardé de ça, c'est l'attention qu'on porte, en fait, parce que on n'est pas sorti encore de cette situation.
Oui.
Y a encore des choses qui sont en rodage ou qui sont en redémarrage, comme notre logistique, la supply chain. C'est quelque chose qui est très lent, en fait, à redémarrer. Et je crois que On est très attentif en fait à savoir si tous les gens reprennent dans les meilleures conditions, et si jamais c'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut les dépanner? Est-ce que je sais pas, ton voisin, t'es à Bordeaux, est-ce que le type qui est de l'autre côté de la ville a je sais pas les cartons qu'il te manque parce que tu n'es pas livré finalement assez vite par rapport à ta reprise d'activité? Comme on ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes de volume de reprise d'activité, on a été, on va dire, plus débordé qu'autre chose.
Oui.
Beaucoup plus que ce qu'on pensait faire. Alors, pour le coup, on était plus dans cet ordre-là de faire peut-être moins 50%, hein, dont on parlait tout à l'heure. Bon, heureusement, on n'a pas fait ça. Mais ça veut dire que, bah, du coup, quand on a redémarré l'activité, alors, il nous restait quelques produits, mais il y a toute la partie frais, en fait, hein, légumes et un certain nombre de produits laitiers, etc., qu'on avait aussi dans nos stocks, qui, pour le coup, on a été obligé de donner parce que, en fait, les DLC ne permettaient pas d'aller au-delà. Il a fallu relancer, en fait, la machine, réapprovisionner tout le monde, et puis être sûr qu'on n'ait pas besoin de dépanner le voisin. Donc, nous, on a dépanné, je sais pas, moi, le type de Melun, celui de Sainte-Geneviève-des-Bois, et inversement, en fait.
D'accord.
Hein, on a été dépanné par d'autres. Donc, ça a été, je pense, un gros élan de solidarité. Ce qu'on garde, c'est ça en fait, c'est le sentiment d'appartenance à un réseau, un vrai sentiment d'appartenance à un réseau, et pas simplement un regroupement d'entrepreneurs qui portons la même enseigne, voilà, sans forcément se connaître ou se parler. Donc on a gardé cette proximité, on a gardé cette solidarité, on a gardé cette écoute active qu'on avait déjà, mais qui est exacerbée, je trouve, aujourd'hui.
Et du coup, ça s'accompagne d'outils spécifiques que vous avez mis en place ou non? Ça se vit.
Ce sont des process en fait, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que sur les problématiques de livraison qu'on peut avoir, on a les statistiques de qui est livré quand, en fait, de quoi, et on sait que par rapport au volume d'activité qu'il a repris, on sait que il risque d'être en rupture peut-être un jour ou deux. Donc comment est-ce qu'on fait pour le dépanner en pain, parce que c'est un peu la base aussi de notre offre, pour qu'il puisse faire le pont en fait entre sa rupture en fait et sa prochaine livraison. Donc c'est plus, on va dire, des process, des reporting qu'on peut avoir en fait de notre service achat approvisionnement pour s'assurer que personne n'est obligé ou ne pourrait être obligé de refermer finalement son restaurant, ce qui serait une dramatique en fin de compte, sous prétexte de rupture. Ça aurait été quand même un comble de devoir refermer en fait un restaurant. Alors je pense que certains l'ont fait, malheureusement, peut-être sur un jour, mais en tout cas on a tout fait pour organiser des dépannages, y compris samedi, dimanche, tard le soir, avec notre service logistique, pour s'assurer qu'on puisse quand même apporter une solution, même si elle n'est pas 100% satisfaisante, mais en tout cas être sûr que le problème, il a été identifié, qu'il a été pris en charge, qu'on essaie de trouver une solution et que, on ne laisse pas finalement le franchisé tout seul. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça, c'est jamais laisser les gens seuls et rompre en fait cette espèce d'isolement qu'on a eu pendant cette semaine et qu'on ne veut plus avoir en communiquant massivement en fait autour de soi.
D'accord. Alors Subway, j'imagine qu'il continue aussi son développement. Il y a eu des candidats pendant ces mois un peu particuliers qui arrivent. Comment ça se passe vraiment? Est-ce que vraiment les candidats à la franchise continuent à se dire, tiens, justement, c'est un moment où j'ai plus de temps, je vais approfondir mon projet, je vais le fignoler, etc. Ou est-ce que ça a mis un peu de frein? Et vous en êtes où par rapport à ce développement-là?
Alors honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on a eu moins de demandes. Après, on a une méthode, on va dire, de recrutement qui est un peu élitiste, j'ai envie de dire, parce que on cherche, on parle souvent, excusez-moi du terme anglais, mais on cherche ce qu'on appelle des soft skills, en fait, donc qui sont en fait du savoir-être.
Oui.
Je cherchais le mot, pardon. On cherche du savoir-être. On cherche du savoir-être et on cherche des gens qui sont clients en fait de notre marque. Je pense que c'est important quand on vend un produit de l'apprécier soi-même. On voit bien que nos équipes en restaurant, quand il y a un nouveau produit, là en ce moment on a un poulet fumé qui est excellent, si eux le mangent en fait et l'aiment, ils le vendent beaucoup plus en fait. Donc on a un type de profil en fait comme ça qui est alors c'est pas le mouton à cinq pattes parce que le candidat parfait n'existe pas, mais on a des méthodes en fait de recherche où on incite plus les gens à pousser notre porte pour nous demander effectivement s'il y a quelque chose à faire avec nous, plutôt que de ratisser très largement. Donc je pense qu'effectivement pendant le confinement ça s'est un petit peu ralenti parce qu'on a surtout communiqué en fait à la demande de différents supports sur comment on avait géré en fait la fermeture et comment on préparait la rouverture. On n'a pas communiqué sur le recrutement. Je pense qu'il y avait d'autres choses à penser en fait avant ça.
Oui.
Ce qui est par contre une très bonne nouvelle, c'est que toutes les ouvertures qui étaient planifiées en fait auront lieu, donc il n'y a rien
d'accord.
d'annulé. On a même des franchisés qui ont anticipé en fait des remodeling en fait de leur restaurant en profitant de la fermeture de leur restaurant en disant bon bah si je trouve des contractants pour faire les travaux puisque les travaux ont repris à un moment donné, comme de toute façon il faut que je ferme 3 semaines.
Autant en profiter.
Voilà. Puisque je suis fermé, je vais faire mon remodeling maintenant. Donc ça dénote plusieurs choses. Ça dénote du coup une véritable confiance en fait.
Tout
dans
à fait. Oui.
En disant de toute façon j'ai confiance dans mon outil de travail et dans mon enseigne. Donc du coup j'investis dedans même pendant le confinement et comme ça je ressortirai plus fort. Donc on a je crois une petite dizaine de restaurants qui ont lancé leur remodeling pendant le confinement et certains ont déjà réouvert. Et puis d'autre part on a ça démontre aussi que financièrement l'enseigne en fait est restée solide, a fait face. On a eu la confiance aussi finalement de nos partenaires bancaires en disant finalement je ne demande pas qu'un PGE mais je demande aussi en fait un prêt pour faire mon remodeling, donc du coup c'est plutôt rassurant qu'on ait une écoute en fait attentive par rapport à ça. On a après les franchisés qui se disent comme je vois que j'ai résisté en fait finalement relativement bien à cette période et que ça fait un moment que je m'interroge en fait pour ouvrir un deuxième restaurant, dès qu'on sort de la crise en fait je m'y intéresse. Donc en fait j'ai beaucoup de franchisés qui m'appellent en me disant est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Peut-être aussi qu'ils perçoivent que il risque d'y avoir de la casse peut-être à droite à gauche en se disant est-ce que
il y a peut-être des emplacements à reprendre.
Il y a des emplacements en fait à reprendre. Si je dis n'importe quoi, ça fait longtemps que je veux aller dans ce centre commercial là. Est-ce que vous pouvez vous renseigner pour savoir s'il y a des opportunités. Donc je trouve que c'est un très bon signe en fait qu'ils nous envoient parce que ça veut dire que comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas si on ressort plus fort, mais en tout cas, on ressort plus confiant par rapport à notre enseigne. Et je pense que c'est tout à l'honneur en fait, des franchisés qui ont fait le job aussi dans leur coin, qui ont glané toutes les aides en fait, qui étaient à prendre pour eux, et aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation où, quand ils reprennent, en fait, ils ont, plutôt que de l'appréhension, ils ont confiance en fait, dans l'avenir. Et ça, je trouve que c'est symboliquement, c'est très fort. Donc, il me semble que quand on va recommencer à communiquer pour éventuellement intéresser des gens qui veulent travailler avec nous, je pense qu'en fait, on appuiera beaucoup là-dessus, parce que j'ai le sentiment que c'est très représentatif de ce qu'on peut attendre en fait d'une enseigne.
Il y a un plafond sur le nombre de franchisés que vous voulez ou le nombre d'enseignes que vous voulez ou non, c'est en fait ça, ce bouet peut vivre dans tout type de ville, dans tout type de centres commerciaux ou...
Alors, on a identifié en fait les villes à prendre, comme j'appelle ça, ou les sites à prendre, donc il y a encore des endroits très dynamiques dans lesquels nous ne sommes pas implantés, que ce soit des villes ou des centres commerciaux. Là on va pas tarder à avoir un rendez-vous avec un gros bailleur en fait qui a des très jolis centres commerciaux, donc pour justement relancer en fait la machine et trouver les emplacements. On a des villes comme Blois, Marmande, qui cherchent en fait aussi un franchisé pour s'implanter, ou Cahors en fait pour s'implanter dans ces villes là où on n'est pas, qui sont des grandes villes en fait et qui sont intéressantes. Il n'y a pas de plafond. On n'aura jamais 2000 restaurants en France, c'est pas le but. Et si jamais on y arrive, ça sera pas lié à un objectif en fait fixé au départ. Je crois qu'en fait il y a pas mal d'endroits en fait encore qui sont libres, dans lesquels en fait notre enseigne a une place et peut avoir une valeur ajoutée en fait à l'offre existante.
Plutôt centre-ville, plutôt près des lieux d'activité. Quel est le modèle maintenant que vous développez plutôt les deux?
C'est beaucoup développé en centre-ville. À une époque, on est monté à 65% de restaurants en centre-ville. Je pense que ça a été ce qui a été plus facile à faire finalement, le centre-ville, parce qu'il y a plus d'opportunités, je pense, en termes de locaux. Mais on fonctionne mieux dans des lieux de destination, de consommation, comme les centres commerciaux, les retail parks, les shopping promenades aussi, comme on aime bien les appeler. Donc c'est un peu ces centres commerciaux à ciel ouvert. On fait plus de chiffre d'affaires. Souvent, ils sont en dehors, en plus, des grandes villes. Donc les mètres carrés sont plus disponibles, j'ai envie de dire. On peut faire des choses plus grandes, plus jolies, plus spacieuses, plus agréables aussi pour l'expérience client. Tout ce qui est zone commerciale d'une façon générale en fait, je trouve est plus adapté en fait à notre modèle. Après, il y a des centres-villes en fait qui sont très dynamiques. Je pense des villes comme Poitiers ou je parle de villes en fait qui font à peu près 50 000 habitants, mais
ouais.
Poitiers, Orléans par exemple sont des centres-villes qui sont très dynamiques, où dans lesquels on n'exclut absolument pas évidemment de se développer si jamais il y a des opportunités. Alors on a déjà des restaurants et des franchisés dans ces villes-là, mais s'ils veulent continuer de se développer en centre-ville, il n'est pas question de déserter en fait le centre-ville. Au contraire.
Ouais.
Après voilà, il y a des centres-villes où c'est un petit peu plus difficile et comme il y a des centres commerciaux en fait un peu plus difficiles aussi, hein, dans lesquels en fait on n'ira pas. Donc il n'y a pas de plafond en termes de nombre d'habitants, en termes de taille de ville ou quoi que ce soit. Je crois que ce qui nous intéresse vraiment, c'est le marché local. Est-ce que le marché local en fait a besoin de nous? Est-ce qu'on a une raison d'être, une valeur ajoutée en fait localement, qui peut permettre à un franchisé soit de démarrer une activité, soit de se développer. La seule chose qui est sûre, c'est que nous allons favoriser en fait la multifranchise. Pour moi, c'est important que sur une ville comme Cholet ou Amiens, en fait, par exemple, soit le même franchisé,
oui,
qui détienne tous les restaurants, parce qu'il y a une connaissance du tissu économique local qui va faire que notre ami d'Amiens va nous dire « moi, je suis là, mais il y a un truc qui se développe là, j'ai n'importe quoi au sud, et il faut absolument qu'on ouvre un restaurant là ». Donc du coup, on va dire « on va travailler avec lui, avec des bailleurs, etc. pour savoir ce qu'on peut faire en fait ». Mais finalement, le développement va être impulsé par ces gens-là. Et puis après, il y a toutes ces villes dans lesquelles en fait on n'est pas encore implanté, ou des grandes villes dans lesquelles effectivement on a aussi besoin soit de renouveler aussi nos franchisés, parce que comme je vous disais, ça fait 20 ans, donc
oui,
les gens qui avaient 40 ans, qui est à peu près le moment où on décide finalement de se lancer dans l'entreprise, hein, je pense que c'est à peu près l'âge moyen entre 30 et 40 ans, sont des gens qui aujourd'hui sont proches de la soixantaine, ont peut-être envie effectivement de passer la main et de faire autre chose, donc il y a aussi besoin de recruter des gens pour reprendre des activités existantes qui sont très intéressantes. Je pense à mon collègue de Melun, je sais qu'il a envie de faire autre chose parce que je crois qu'il s'approche de la retraite. Ses enfants sont partis faire autre chose. Et à Melun, voilà, on a un restaurant dans le centre-ville, mais à côté de ça, on a, Villiers-en-Bière, Carré-Sénart, Cesson, enfin, il y a plein de
oui,
trucs.
Oui, il y a du potentiel dans 77.
en plus du centre-ville de Melun,
oui,
qui est super dynamique, du côté de la place Saint-Jean. Donc il y a plein de choses en fait qui sont possibles aujourd'hui dans le réseau. Donc c'est pour ça qu'on continue de recruter. Mais encore une fois, voilà, on recrutera des gens qui ont envie de bâtir quelque chose. Je ne cherche pas forcément des gens opportunistes en fait qui veulent faire un commerce parce que cette enseigne elle vend en poupe et je sais que dans 5 ans ça va être compliqué, je vendrai juste avant. Enfin, je ne veux pas de mercenaires en fait. Je veux des gens qui croient dans notre enseigne, qui sont clients de l'enseigne, qui ont envie de se développer, d'en avoir 2, 5, 10 en fait, pourquoi pas. Il n'y a pas de limite, sauf avoir peut-être quelqu'un quand on a, 25% du parc.
Oui.
À ce moment-là, ça sera compliqué. Mais on en est loin. Donc ça sera peut-être dans 20 ans, donc ça sera une autre discussion qu'on aura à ce moment-là. Mais en tout cas, je suis en faveur d'un développement en tout cas raisonné, rentable, pérenne, avec des gens qui ont envie de faire de bâtir quelque chose. Voilà.
Ouais, de donc, faire une équipe, de poursuivre cette belle équipe.
Ouais, c'est ça. Et puis de s'imposer en fait dans un territoire, sur une ville, pour asseoir on va dire son business. Et pourquoi pas, je sais pas, quand on est dans une ville, j'ai peut-être un mauvais exemple, mais si je suis, à Saumur, c'est peut-être pas un bon exemple, ou Poitiers par exemple, peut-être que ça sera l'occasion d'aller à Parthenay, par exemple, et alors que tout seul quelqu'un à Parthenay aura du mal en fait à vivre, on va dire, et il ne pourra pas se développer, il ne pourra faire qu'un seul restaurant à Parthenay. Mais peut-être que le type de Poitiers pourra se dire, dans cinquième restaurant, je vais sortir de Poitiers, je vais aller en fait à Parthenay parce que ça a du sens. C'est à une demi-heure, trois quarts d'heure en fait de mon point de chute. Et du coup, on va peut-être pouvoir attaquer des villes sur lesquelles il y a de la demande, mais dont on est sûr que le business sera sécurisé et que c'est pas un restaurant qui va galérer pendant 5 ans, 7 ans, le temps de ses prêts, et puis avoir quelqu'un qui soit dans la peine. Donc l'objectif, c'est vraiment pas d'avoir des gens qui soient dans la douleur. Je crois que quand on crée des entreprises, on le fait parce que c'est fun, parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de créer, d'avoir de la valeur ajoutée aussi, et on le fait pas pour peiner en fait pendant plusieurs années en attendant misérablement la fin de son prêt en fait au bout de 7 ans, en disant ça y est, je vais enfin pouvoir faire un petit peu de trésorerie. Donc pour moi, ça c'est hors de question, c'est terminé, et c'est pour ça que je pense qu'il faut capitaliser sur des zones et sur des gens qui ont envie de bâtir des choses. Alors je parle pas de bâtir un empire non plus, hein. On n'est pas les gens qui vont avoir 1000 restaurants ou 500 restaurants comme on peut en avoir aux États-Unis, mais au moins d'être voilà le monsieur Sebré en fait de son coin,
voilà,
de sa région, et puis de pouvoir vivre convenablement et puis faire évoluer sa famille, ses équipes en fait dans son projet.
Tout à fait. Bah, merci Cédric pour cet entretien qui a été très sincère, très ouvert, et voilà, vous avez été vraiment dans dans l'esprit des voies de la franchise. Voilà, je ne sais pas si vous avez réussi à développer l'esprit Subway, ça se sent, ça se ressent, et je pense que vos franchisés vous l'ont renvoyé pendant cette période un peu hors norme. Et ben voilà, on a réussi aujourd'hui à rentrer bien dans l'esprit des voies de la franchise qui permet effectivement de décrire un peu la situation et puis l'état d'esprit de chacun. Pour terminer, je pose la même question un peu à tous ceux qui viennent parler sur les voies de la franchise. J'avais au départ proposé différents choix aux gens, et puis il se trouve qu'ils ont tous choisi cette question, qui était la question autour du doute. Mmh. Voilà, quelles sont vos routines en cas de doute ?
Alors bon, déjà, je pense qu'un entrepreneur qui doute pas, soit c'est un génie, soit c'est un fou, mais parfois les deux sont les mêmes. Mais donc oui, il y a des périodes de doute, je vous dis, comme le soir où on a décidé de communiquer au réseau de l'arrêt de l'activité. Voilà, donc on savait pas si tout le monde allait suivre en fait la recommandation. Et j'ai envie de dire, ma routine, si on peut appeler ça comme ça, c'est que je me tourne vers mon équipe en fin de compte. Hein, Je suis entouré, je suis pas seul à décider, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Donc systématiquement quand j'ai un doute en fait, je consulte en fait mon équipe sur des décisions importantes, en tout cas comme celle-là. Voilà, mais en tout cas ce qui est pratique, c'est que on sait exactement quoi faire, on sait exactement comment le faire, on connaît exactement le potentiel de cette enseigne qui est pour moi des années-lumière aujourd'hui de ce qu'elle pourrait être demain. Je pense que c'est une enseigne qui a le pouvoir de devenir une des plus grosses enseignes de France sans problème en fait, et même une des enseignes préférées des Français, parce que de par son concept de convivialité et puis d'interaction qu'on a avec les clients, et les gens que j'ai recrutés en fait autour de moi, ils sont dans cet état d'esprit. Et comme on gère cette enseigne comme si c'était notre propre entreprise, j'aime beaucoup finalement les consulter. Voilà, donc quand j'ai un doute, on partage. On a un petit groupe WhatsApp avec mon management en fait direct, et on discute pas mal en fait là-dessus, et souvent ça nous permet d'avancer très vite, et puis en plus en même temps ça permet de garder la cohésion d'équipe, puis de d'être aligné sur les décisions en fait qu'on prend. Donc là, pendant cette crise là, pour le coup, il y en a eu beaucoup des doutes, mais du coup, on a avancé quand même très vite, et je crois qu'on a toujours pris ou su prendre les bonnes décisions. Donc voilà, je ne vais pas appeler ça une routine, je pense que c'est une pratique normale de tout manager, en fait, qui sait s'entourer, puis qui a un management participatif. Mais voilà, en tout cas, c'est la réponse que je pourrais formuler, c'est celle-là.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, longue vie à Subway.
C'est gentil, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn, et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.